Studio Tamani, voici les informations en français.
Le gouvernement sursoit à la suspension des subventions accordées aux écoles catholiques pour l'année scolaire 2024-2025. Cette décision annoncée hier par le Premier ministre est saluée par les parents d'élèves. Les relations fraternelles et commerciales sont au beau fixe à la frontière Mali-Guinée. Sur place, les échanges commerciaux sont florissants. Le dossier de la semaine porte sur l'obtention de la carte de presse. Avec l'avènement de la digitalisation de l'administration, cette pièce est désormais magnétique. À l'instant, le sommaire de cette édition, tout de suite, le développement avec Hamsetou Touré. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Je viens à l'instant de l'annoncer. La mesure de suspension de la subvention de l'État aux écoles catholiques est levée. Cette information a été donnée ce mercredi par le chef du gouvernement lors d'une rencontre avec les responsables de l'enseignement catholique. De ce fait, les écoles catholiques ouvriront pour la rentrée scolaire 2024-2025. Un reportage de Lale Tangara.
Dans les soucis de préserver l'avenir des élèves, le gouvernement décide de sursoir à sa décision de suspendre sa subvention envers les écoles catholiques. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a précisé que l'application est pour cette année, tout en tenant compte des textes actuels du pays.
Le président de la transition et les plus hautes autorités ont comme souci principal préservation des intérêts des étudiants, des apprenants, des enfants qui sont la majorité des Maliens. Et donc la décision de suspendre totalement la participation de l'État à l'encadrement sur le plan financier de l'école catholique est suspendue. Elle ne va pas être appliquée cette année. Si elle doit être appliquée, c'est dans une année.
Le syndicat des enseignants des écoles catholiques du Mali se réjouit de cette annonce. Selon eux, ils étaient menacés de licenciement. Madi Dambélé, secrétaire aux revendications du syndicat de l'enseignement privé catholique.
C'est un nouveau de soulèvement en fait. Ce temps, une année, permettra alors aux deux grands, l'enseignement privé catholique et l'État, d'accorder le violon. Nous, on ne peut que remercier d'avoir les deux parties par rapport à ce consensus.
Le syndicat des enseignants des écoles catholiques du Mali préconise encore le dialogue entre le gouvernement et l'Église pour le bonheur des élèves.
Cette levée de suspension de la subvention accordée aux écoles catholiques permettra à plus de 40 000 élèves et près de 1 500 enseignants de poursuivre cette année leur cursus scolaire et leur vocation. Se réjouit l'association des parents d'élèves. Ses responsables encouragent une bonne gestion de cette subvention et le maintien du dialogue entre les autorités administratives et scolaires. Daouda Sako, secrétaire général adjoint de l'association des parents d'élèves, est au micro de Mahmoud Ag Rissa.
Non, mais moi, ça me fait plaisir parce que, vous savez, mais si le gouvernement n'appuyait pas les écoles privées catholiques, vous savez, c'est près de 40 000 élèves qui seraient mis dans des situations très difficiles et peut-être aussi licenciés près de 1 600 enseignants. Vous voyez, c'est de savoir comment impact sur le climat social. Donc, ce que nous pouvons quand même demander, c'est que vraiment, il faudrait que les fonds qui sont mis à la disposition de ces écoles-là soient judicieusement utilisés. Tant pour les écoles privées catholiques, autant pour les écoles privées que le gouvernement subventionne. Parce que ce sont des milliards qui sont engloutis. Hein.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement appelé Twitter. Les femmes et filles des communautés hautes et déplacées de la commune urbaine de Gao ont reçu le mercredi des équipements et des intrants pour mener des activités génératrices de revenus. Ces dons sont composés de matériel de maraîchage et des produits de commerce comme du lait, du sucre, de l'huile, du thé et du riz. Environ une trentaine de personnes ont bénéficié de cette aide. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de relèvement économique et de protection des femmes et filles des populations vulnérables hautes et déplacés de Mopti Gao et Menaka. Il est mis en œuvre par l'ONG Nova Mali et ONU Femmes. Je Autre titre de ce journal, l'échange commercial entre le Mali et la Guinée se passe en parfaite symbiose. En tout cas, c'est ce qu'affirment des citoyens maliens et guinéens qui fréquentent régulièrement la foire hebdomadaire de Yanfolila dans la région de Bougouni et celle de Nyantana en Guinée. Le sucre, le riz, la farine et les légumes sont entre autres les produits échangés entre ces pays frontaliers. Les autorités de Yanfolila affirment que cette activité renforce l'économie locale. Suivons donc ce reportage de notre envoyé spécial à Yanfolila, Ousmane Nyalibouli.
Youssouf Sidibé est le président du syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains de Yanfolila et Tchakoro Diakité, chef des lignes de transport à la gare de Yanfolila. Tous deux affirment la bonne entente entre les citoyens de ces deux pays frontaliers. C'est ce qui se justifie par l'échange de produits alimentaires entre les commerçants.
Chaque mardi, nous recevons au moins 5 ou 6 véhicules venant de la Guinée pour la foire. Les femmes guinéennes viennent s'approvisionner en condiments pour Nyantana. Elles viennent avec des sucres, du riz, de la farine, du blé pour nos commerçants. Tous les mercredis, nous aussi, nous allons à la foire de Nyantana avec nos véhicules chargés de gingembre et de condiments. Pour vous dire tout simplement qu'il n'y a aucun problème entre les commerçants maliens et guinéens.
La satisfaction est aussi partagée du côté de la communauté guinéenne. Mamadou Diakité est un transporteur de la ligne guinéenne.
Nous venons avec beaucoup de produits, notamment du maïs, du mil et d'autres articles pour femmes. Nous les vendons et au retour, nous nous approvisionnons en produits pour les revendre chez nous. Tout se passe bien entre Maliens et Guinéens.
Cet échange commercial entre le Mali et la Guinée profite à l'économie locale de Yanfolila. C'est ce que nous dit Madame le maire de la commune de Wassouloubale, Rokia Diakité.
Aujourd'hui, on est mardi, c'est la foire à Yanfolila ici. Il y a plein de Guinéens qui viennent ici. Demain, c'est la foire de Nyantana mercredi. Donc, les nôtres aussi vont à Nyantana participer à la foire hebdomadaire. Donc, il y a beaucoup d'échanges entre nous.
La population locale souhaite le renforcement de ces liens fraternels et commerciaux. Rappelons que la ville de Yanfolila est à environ 40 km de la Guinée. De Yanfolila, Ousmane Nyalibouli pour Studio Tamani.
Fin ce 20 août d'une rencontre de deux jours sur les activités menées par les structures étatiques et les ONG à Koutiala. Une centaine de leaders communautaires de l'U de travers des collectivités et des services techniques ont participé à la rencontre. C'était à la faveur d'un atelier de session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement du cercle de Koutiala, CLOCZAD. Selon les organisateurs, la rencontre a permis d'informer les participants sur les activités menée par les structures pour le bonheur des populations. Au nombre des difficultés, la session a abordé le retard dans le paiement de salaire du personnel dans certaines collectivités.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
L'avènement de la digitalisation a provoqué des changements dans plusieurs domaines au Mali, notamment l'obtention de la carte de presse. Cette dernière est désormais magnétique. Pour s'en procurer, le ministère de la Communication a demandé aux hommes de médias de fournir un certain nombre de documents. Cependant, la lenteur dans le processus est dénoncée par des journalistes. Adama Amadou Haïdara pour plus de détails.
Depuis 2021, les journalistes maliens devaient établir de nouvelles cartes professionnelles, l'ancienne étant expirée. Certains ayant introduit leur dossier ont pu obtenir le précieux sésame. C'est le cas de Abdoulaye Guindou.
J'ai bel et bien reçu ma carte, et cela à l'issue d'un processus d'acquisition qui consiste à d'abord composer un dossier, déposer au niveau de la commission d'attribution de la carte qui est logée au ministère de la Communication. La commission m'a informé de la validation de mes dossiers, et cela après constat de l'expiration de l'ancienne carte.
Contrairement à Abdoulaye Guindou, plusieurs autres confrères attendent toujours d'avoir la carte de presse. Baladi Touré n'a tout simplement pas fait la demande à cause de la lenteur du processus.
J'ai à ma possession une carte qui est arrivée à expiration. Je n'ai pas voulu m'en faire une nouvelle carte due à la lenteur du service aujourd'hui. Donc il va falloir qu'il y ait vraiment un changement.
Pourquoi cette lenteur dans l'attribution des cartes? Le processus a-t-il changé? Mahamadou Talata Maïga, membre de la commission d'attribution de la la carte de presse répond.
Je ne pense pas qu'il y ait une lenteur. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu un blocage lié au matériel de production qui était tombé en panne. Il fallait la changer et il fallait aussi l'adapter véritablement aux nouvelles réalités. De ce que nous savons, la machine aujourd'hui est opérationnelle. Il se passe aussi que ce n'est pas tous les jours que la commission se réunit, qu'il faut qu'il y ait au moins une pile de dossiers pour qu'on puisse statuer. Donc souvent, les dépôts aussi sont également lents.
L'authentification du diplôme par le ministère de l'Enseignement supérieur est la seule nouveauté dans le processus, confirme le chef de cabinet du ministère de la Communication, Mohamed Agalbachar. Il revient sur les raisons de cette authentification du diplôme.
Vous savez, pour obtenir la carte de presse, il y a des critères à remplir, parmi lesquels il y a la détention d'un diplôme supérieur. Nous prenons les diplômes, les envoyons au niveau de l'enseignement supérieur, qui vérifie effectivement si c'est des bons diplômes ou pas. Nous avons déjà lancé un processus simple. On a eu un retour parmi ces dossiers. Il y a des diplômes authentiques non habilités à faire du journalisme et il y a des faussaires malheureusement.
Selon la maison de la presse, aucune mesure n'a été prise pour les cartes dont la validité a été expirée. Elle exhorte toutefois les journalistes à introduire les dossiers pour l'obtention du précieux document.
Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant, le 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Avant de refermer ce journal, je rappelle que le grand dialogue de ce soir est une rediffusion et le thème est des inondations de trop, une présentation de Imrana Kilumaïga. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kunafoni au 37 3 2 1. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone. Merci de votre constante fidélité. Tout de suite, le magazine. L'hôpital régional de Sikasso reçoit par an 200 à 250 enfants souffrant de malnutrition aiguë et sévère. Ces chiffres sont communiqués par le chef du service de pédiatrie du dit hôpital. Il indique aussi que 5 cas de décès ont été enregistrés en 2023. Par conséquent, le spécialiste déconseille le sévrage précoce des enfants, même en cas de grossesse. Un geste simple qui, selon lui, pourrait éviter des cas de malnutrition. À l'hôpital de Sikasso, des parents se félicitent tout de même de la prise en charge des enfants malnutris. Notre envoyé spécial de retour de Sikasso, Imrana Kilumaïga, a fait une immersion au service de pédiatrie de l'hôpital de Sikasso.
La malnutrition des enfants est une réalité à Sikasso. À l'hôpital régional de la ville, le service de la pédiatrie effectue par jour 30 à 40 consultations d'enfants souffrant de malnutrition, selon Dr Hashimi Poma, pédiatre praticien dans cet hôpital. Et 2 à 3 cas de malnutrition sévère nécessitent une hospitalisation, regrette-t-il.
Ils sont considérés comme des enfants avec malnutrition sévère. Alors, ce qui fait peut-être un total de 50 à 60 cas de malnutrition par mois. Ces malnutritions souvent sont liées à des problèmes d'apport qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs dans l'alimentation de l'enfant.
Ces déficits résultent de certains comportements adoptés par les mamans, souligne Dr Hashimi Poma, pédiatre.
Il y a des problèmes comportementaux tels que un bébé qui doit téter jusqu'à l'âge de 2 ans, et s'il est sévéré précocement, il va de soi qu'il fasse une malnutrition et surtout la forme sévère aussi. Voilà, donc les sévérages précoces qui sont souvent liés à des grossesses précoces chez les mamans qui sévrent très tôt les enfants et ils n'ont pas d'alimentation adéquate.
À cela s'ajoute le manque d'apport nutritionnel en qualité ou en quantité suffisante. Des parents conscients de ce fait s'allient tout de même la prise en charge des cas sévères.
Depuis qu'on est arrivé dans cet hôpital, nous avons constaté une nette amélioration de la santé de notre enfant.
En plus de la malnutrition, notre enfant souffre également d'anémie.
La seule difficulté est que lorsque tu constates une amélioration en estimant qu'on pourrait vous libérer, c'est ce qui ne se fait pas au moment voulu.
Grâce à une politique mise en place par l'État, la prise en charge des enfants malnutris est gratuite dans toutes les structures sanitaires du pays. Cependant, certaines analyses combinées à d'autres pathologies sont à la charge des parents, précise Dr Hashimi Poma.
Ces enfants sont pris en charge gratuitement pour leur hospitalisation, pour l'administration de l'aide, des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Aussi, certaines certaines analyses sont gratuites. Mais bon, de temps en temps, si l'enfant a une autre pathologie associée, il n'est pas rare de voir aussi que les parents peuvent honorer un certain nombre d'analyses pour pouvoir compléter la prise en charge initialement prévue partant la gratuité de l'État.
La région de Sikasso bénéficie pourtant depuis 2021 d'un programme dénommé Right to Ground, ou droit de grandir. Piloté par l'ONG Amadecom, ce projet vise à renforcer les politiques nutritionnelles de développement et réduire la malnutrition. Il couvre les 4 communes de Sikasso. Younoussa Samba Souleymane Diallo, point focal de l'organisation, se félicite de son impact dans les zones d'intervention du projet.
On a un résultat satisfaisant parce que même par exemple à Dandresso où les gens prenaient l'eau du marigot pour boire tout. Maintenant il y a ces changements où dans les zones il y avait les banques de céréales qui ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui il y a beaucoup de banques de céréales qui fonctionnent et ça a permis aussi un changement de comportement. Il y a une forte amélioration dans ces 4 communes.
Selon les responsables de l'hôpital régional, la plupart des enfants malnutris proviennent de la ville de Sikasso. Ils invitent donc les parents à donner aux enfants des compléments nutritifs adaptés pour le bien des nourrissons.